On va ouvrir et ouvrir largement le champ du dialogue social. Et faites-moi confiance, au terme de ce processus, ce qu'on appelle le code du travail, ce n'est pas un nombre de pages, ça sera finalement bien adapté à la situation des entreprises.
Le gouvernement allemand a félicité Mme El Khomri, je dirais, du courage d'avoir mis cette loi-là. Donc je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, et c'est de nature à baisser la peur des patrons d'embaucher d'une part, et de baisser la peur des salariés d'être licenciés. C'est cette double peur qu'il faut baisser.
On n'est pas dans le Parti Socialiste, ça vient pas du Parti Socialiste, ça vient de l'Élysée, c'est-à-dire de la Ve République où le pouvoir personnel s'instaure totalement. Et il décide, à quelques individus, Macron avec Gattaz, etc., si vous voulez, mais il décide d'imposer la casse du Code du Travail, c'est-à-dire en gros hein, quand même la journée de 12 heures, la possibilité de travailler 60 heures, la fin du repos quotidien, le travail pendant 40 heures pour les enfants à partir de 14 ans, la possibilité par forfait jour de déroger à tous ces horaires. Ils ont même inventé maintenant que le jour de la semaine, du début de la semaine, était décrété par le patron. C'est-à-dire, ça n'est plus le lundi, comme tout un chacun peut croire. Ça peut être le mardi ou le mercredi. Et pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, le dimanche n'est plus le dimanche. Et qu'on n'a plus besoin de le majorer. C'est ce que le BHV vient de proposer aux organisations syndicales pour ne pas payer de majoration le dimanche. Donc, ils ont décrété mais 50 critères qui maintenant modifient toute la vie intime des salariés. Le travail pourrait être payé à la tâche, ou du moins, ça n'est pas exclu.
Bonsoir, les travaux avancent bien à Radio B, les studios prennent forme et il va être l'heure de les habiller. En attendant l'inauguration des locaux rénovés à l'automne, nous vous proposons de remonter le temps à grands coups d'émissions divisibles par 100 ou presque. Ce soir, nous reviendrons le jeudi 27 août 2020 pour les 20 ans d'Auterminus des Prétentieux. Entre deux pandémies, Patrick, Jean-Philippe, Christian, Frédéric, Cyril et Tonio avaient tenu à fêter comme il se doit un anniversaire pas comme les autres. Dans cette première partie, il sera question de cinéma, mais pas seulement. Retrouvez à la fin de la rediffusion de l'émission les concerts de la semaine du 12 au 18 septembre 2025. Alors, vous êtes bien installé dans la Dolorienne du Doc. Sur le convecteur temporel, vous avez choisi le jeudi 27 août 2020. Bon voyage sur les 90.0.
Radio B, comme bonne humeur.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Alors, il dort le gros con ? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Au terminus des prétentieux à 20 ans. Le 1er septembre 2000 à 19h, une bande d'anciens jeunes débarquaient sur les ondes de feu Tropique FM. Ghislaine, Christian, Thierry, Patrick et Michel, un quintet rejoint ensuite par Jean-Philippe, Frédéric et Clément pour 2 heures de cinéma, de musique et de médias. Alors sauce, bien évidemment, et piquante en particulier. Alors quand le rendez-vous du vendredi à 19h se retrouva à 17h le jeudi, qui pouvait se douter que 20 ans plus tard, les gugus du département de l'Ain seraient toujours au rendez-vous. Cyril est désormais Tonio, accompagne désormais Michel et le 7e art, sans oublier le 4e pouvoir, ont bien du mal à se frayer un chemin. Grâce à la musique, l'esprit de l'émission est resté le même et le monde du fric et des cons donne bien du fil à retordre à ses animateurs. De Chirac à Macron, en passant par Hollande et Sarkozy, 20 ans d'émission nous contemplent. Le monde d'après sera-t-il différent de celui d'hier et d'aujourd'hui ? 20 ans après les 35 heures, que reste-t-il de nos espoirs déçus ? Malgré tout ce qu'il a pris dans la gueule, le gros con dort toujours autant. À nous de réveiller le gugus de Bourg-en-Bresse. Au terminus des prétentieux, 934e réplique culte ce soir va le renvoyer tout droit à la maison mère. Entendra-t-il chanter les anges ? sur le 90.0 de Radio B. Même à Christian Descamps, on lui dira « mange ». Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux, tous les jeudis de 17h15 à 18h, à peu près 19h ce soir, on va tricher un peu, pour une émission pas comme les autres. Ce soir, nous fêterons 5 jours en avance les 20 ans de l'émission. Le 1er septembre 2000 à 19h, nous étions dans nos petits souliers, une première pour certains, un retour parmi les ondes pour d'autres. L'émotion est à son comble et ça se sent.
Quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, Tropique FM.
Alors, il dort le gros con ? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule.
Ils sont venus, ils sont tous là. Vous allez les découvrir dans quelques instants. Ils vont vous faire partager leur passion, leur coup de gueule et plus si affinité. Au Terminus des Prétentieux numéro 1, avec ce soir les énergumènes qui vont m'accompagner. Et ça va être très difficile, surtout pour cette première, à ma gauche, Patrick. Patrick, on dit bonsoir.
Je dis bonsoir, j'aime pas tellement qu'on me traite d'énergumène, Michel.
D'accord.
Je tenais à te le dire quand même pour commencer.
Thierry, bonsoir.
Bonsoir, moi non plus, j'aime pas vraiment qu'on me traite d'énergumène.
Christian, ça te dérange pas à toi ?
Eh bien bonsoir, ça ne me pose aucun problème.
20 ans plus tard, donc ils sont là, et n'auraient raté pour rien au monde cette émission anniversaire. Le 1er septembre 2000, il était à ma gauche. Aujourd'hui, il a choisi une autre voie. Où ce couloir le conduira-t-il ? Patrick, bonsoir.
Bonsoir Michel. Maintenant, je suis à droite. Ah oui, j'ai
non,
de l'argent.
Non, t'es toujours à gauche pour moi, tu vois. C'est fou ça.
Ben, merci pour cette présentation, Michel. Il y avait du vent à l'époque hein, dans Tropique FM. Ça doit être le climat, je pense.
C'était le toit qui n'était pas réparé encore.
Peut-être. Je suis heureux de me retrouver en si bonne et vieille compagnie et de constater avec plaisir la longévité de cette émission et de son animateur phare. En plus, tu perds moins tes cheveux que moi, Michel.
C'est vrai.
Enfin, c'est comme une émission qui finira par écraser dans l'histoire des médias français des chiffres et des lettres, ou le jour du Seigneur, priez pour nous, mes frères. Alors, on était 10 animateurs, et finalement, bah, sur les 10, il y en a un qui est porté disparu. Une qui a sans doute sombré dans les méandres d'un monde culturel en souffrance. En même temps, quand on a Roselyne Bachelot comme ministre, on a quelques excuses. Parmi ses absents, rajoutons un ancien animateur spécialiste du cinéma portugais et des combinaisons à latex, qui a été appelé à de hautes responsabilités pédagogiques avec ou sans masque.
Il sera là tout à l'heure.
Enfin, avec Jean-Michel Blanquer, on ne sait pas toujours. Enfin, l'autre jour, j'ai entendu notre Premier ministre, et je l'ai même vu à la radio, parce que maintenant la radio est filmée. J'avais l'impression d'être dans un Fantomas. Vous voyez non, il ressemble un peu à Louis de Funès avec Jean-Michel Blanquer. Voilà, je terminerai par une amicale pensée pour Christian, le plus mélomane d'entre nous, le plus cultivé aussi, qui est calfeutré dans un refuge de montagne avec le coffret du prisonnier. Il paraît qu'il se passe en boucle en attendant la rentrée des classes. Je sais qu'il l'attend avec impatience cette rentrée. Je l'envoie toute mon amitié.
Toujours partant pour retrouver son public, il a sauté sur l'occasion. Sa devise, prix à pic un jour, prix à pic toujours. Visiblement, il ne s'est toujours pas remis de cette projection lyonnaise et matinale d'un film culte au fantasma. On l'attend d'un moment à l'autre. Est-ce qu'il sera là avant 19h ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il s'agit de Thierry. Après France Inter, Tropique FM a perdu son Bernard Lenoir. Lui aussi a sorti plusieurs compiles. La dernière rappellera bien des souvenirs à Alex Zato. Qu'importe la chanson, pourvu qu'on ait l'enchanteresse. Christian, bonsoir.
Bonsoir à tous. Salut les tigres. Je vous trouve très en forme, même 20 ans après. Je te remercie, Michel, pour les efforts techniques. J'espère qu'on n'aura pas de sibiste cette fois-ci. Un bien bel anniversaire quand même pour une émission qui a vu défiler 4 présidents de la République quand même, et qui en a même enterré un. Hein. À part Nagui, je vois personne pour faire mieux.
Drucker.
Je pense qu'on pourrait peut-être réparer un oubli ce soir, parce que c'est une émission qui a tenu 20 ans sans aucun parrainage. Et quand on dit parrain en France, on dit qui ?
Balkany.
Ben bien sûr, Patrick Balkany, qui quand même nous a jamais déçus pendant ces 20 années, vous êtes d'accord avec moi ? Donc Patrick, si tu nous écoutes, une émission longue de 20 ans, c'est sûrement un bon filon. Donc y avoir pas mal à retirer de l'affaire, tu nous contactes et on sera ravis de faire les 20 prochaines sous ta protection rapprochée. Puis au passage, si tu peux faire quelque chose pour mes impôts, c'est volontiers.
Bien, nous aurons une pensée pour Ghislaine, et puis qui est apparue dans l'émission peu de temps après nos débuts et qui en a émoustillé plus d'un avec son célèbre... Avec son célèbre, les garçons.
Avec son célèbre.
Qu'est-ce qu'elle disait souvent dans l'émission ?
Oh là là.
Oh, quand même.
Patrick. Scouse, mais scouse.
Non, elle disait salut les garçons.
Ah.
Okay. Oui, ça, un truc plus... Salut les garçons. Et puis vous étiez tous émoustillés, Christian le premier.
Bien sûr.
Hein. Donc, et sa présentation des films asiatiques, pas érotiques.
Le lapsus.
Lapsus révélateur, je pense que c'est pour elle.
Ceci dit, à l'époque, il n'y avait pas des calendriers Pirelli dans les studios de Tropic FM.
C'est
maintenant, on a mis des enfants, c'est...
Ouais. Elle est vieille.
Une influence sympathique forte.
Bon, je parle aussi des vieux. Alors, une pensée également pour Clément qui fait son apparition à la rentrée 2002, quelques jours avant la naissance d'Alex. Avant la naissance d'Alix, pardon, d'Alice.
Voilà.
Je mélange les deux. Avant la naissance d'Alice. Et qui n'avait pas son pareil, pas Alice, hein, pour nous raconter sa vision du cinéma. Je pense, je parle de Christian, de Clément.
Voilà.
L'arbre généalogique part en vrille.
Non, mais ça, je mélange tout, j'en prends 10 d'un coup, là, c'est pas facile. Sans oublier notre technicien Azine, qui a achevé notre formation technique entamée 18 ans plus tôt du côté de Radio TSF. Hein, n'est-ce pas, Patrick ?
Qu'est-ce qu'il dit, hein ?
Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais revenons à nos gugus d'un soir. Le football mène à tout, à condition de ne pas tomber sur le Bayern de Munich. 9 ans plus tôt, il en avait fait la meilleure expérience.
Quelqu'un qui ne pourra peut-être pas vous faire un bras d'honneur pendant de nombreuses semaines, et quelqu'un qui n'a plus le bras long, et c'est le cas de Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe.
Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, le foot, c'est un univers impitoyable, puisqu'au cours d'un match Oyonnax contre le reste du monde, un contact viril, mais correct, je précise, m'a valu un nouveau plâtre pour ma collection, un plâtre que j'arbore non sans fierté, à mon bras gauche. Depuis, l'emplâtré que je suis bénéficie de toutes les attentions, en particulier celles de mes comparses du terminus des prétentieux. Michel, par exemple, m'invite à dîner et il ne me chambre plus avec l'OL. Patrick est toujours volontaire pour me frotter le dos, et plus si affinité, lorsque je prends un bain. Christian communique avec moi sur Internet. À ce sujet, pour ses nombreuses admiratrices, je leur conseille d'aller sur le site de Christian, sur son site donc, www.mangeminou.fr. Les initiés apprécieront.
Pardon, oui. C'est petit, hein.
C'était une autre vie. Hein.
J'ai pas fini. Il faut dire qu'il a longtemps écouté l'émission dans sa voiture sur un parking d'un supermarché eunaxien avant de franchir la porte des studios. C'est donc avec beaucoup de nostalgie qu'il revient nous voir. Dédicacera-t-il une chanson au Cibis de Bourg-en-Bresse ? Son QRZ est Freddy M. Jean-Philippe, bonsoir.
Bonsoir à tous. C'est une émission un peu spéciale ce soir. D'abord, ce sont les 20 ans du Terminus, évidemment. Ensuite, c'est l'occasion de revoir les anciens animateurs. Et quand je dis anciens, je ne crois pas si bien dire. Je ne parle pas seulement des rides supplémentaires et des cheveux en moins. À l'époque, il y a déjà 20 ans, le studio était encombré de cadavres de bouteilles, de bière et de vin. Et il dégageait une odeur de charcuterie fine et de chips au fromage. Mais ce soir, c'est plutôt celle du thé à la camomille qui prédomine. Et les ingrédients festifs de l'apéro ont laissé la place aux boîtes de cachets contre le cholestérol et l'hypertension. Bref, on se croirait dans la salle d'accueil d'un EHPAD. Et de l'EHPAD de Covid-19, il n'y a qu'un pas que l'épidémie a malheureusement souvent franchi ces 7 derniers mois. C'est pourquoi l'émission est si spéciale. C'est la première que je vais faire avec un masque. Mais on va s'adapter, on l'a déjà fait dans le passé. J'appartiens en effet à une génération qui a dû s'adapter à un autre virus sexuellement transmissible, une génération à qui on a dit de sortir couvert. Aujourd'hui, un nouveau virus très pernicieux contraint les jeunes et les moins jeunes d'abord à ne pas sortir, puis à sortir masqué cet été. Aussi, je profite de l'antenne de Radio B pour délivrer un message aux jeunes d'aujourd'hui afin d'éviter toute confusion regrettable. Le jeune, si tu m'entends, et même éventuellement, si tu me comprends, soyons optimistes, le jeune, je te rappelle que le masque que tu dois porter n'a pas la même fonction que le préservatif.
Personne ne se souvient quand et comment il a apparu un vendredi soir dans l'émission, ce fan du dernier album de Supertramp. Et je l'ai amené ce soir, c'est pour te dire. N'a pas son pareil pour imiter les plus grands sportifs de notre temps. 15 ans avant Johan Rioux, il nous avait fait vivre la Coupe du Monde de football comme si vous y étiez. Et cette interview historique de Thierry Henry.
Alors Thierry, on est donc devant l'hôtel d'Osaka, là. Vous préparez avec le groupe France, avec Marcel Desailly, voilà, toutes les stars de l'équipe de France, cette Coupe du Monde qui, ma foi, peut-être peser lourd dans la balance, puisque vous êtes un peu fatigué après cette saison, ma foi, difficile avec la Juve. Non, je pense que la Juventus avait fait une grande saison. C'est vrai qu'on n'était pas favori au départ avec Carlos Ancelotti. C'est vrai qu'on a fait une saison, ma foi, assez admirable, puisqu'on coiffe sur le poteau la Lazio de Rome. La Lazio de Rome à la dernière journée, sur notamment 2 buts que je marque. C'est vrai que je suis assez content de la fin de la saison, puisque je finis meilleur buteur du championnat. Alors bon, il y a une grosse solidarité dans ce groupe France, notamment avec votre ami Thierry Henry, dit Titi. Comment se passe cette entente sur le terrain, peut-être sur le terrain et en dehors du terrain? Non, c'est vrai qu'avec Titi, des fois, on joue un peu à la PlayStation. On essaie de se mettre un peu minable, des fois. Bon, lui prend la manette, moi je prends l'autre, et puis on essaie de jouer à FIFA 2000. Et c'est vrai qu'il est pas mal bon. Mais rassurez-vous, Titi, en ce moment, il n'est pas très en forme, mais sur le terrain, j'espère bien prendre sa place.
Frédéric, bonsoir.
Bonsoir Michel, tu me prends court, merci beaucoup pour ça me donne une émotion nostalgique. À cette époque, j'avais vraiment une voix de minet, hein. C'est étrange, j'ai l'impression que j'ai pris un peu en grave. Alors, j'ai pas fait de chapeau, je suis un peu pris de court, je suis désolé, et je serai pas aussi brillant que mes collègues, hein. C'est pas un faux compliment, c'est véridique. Mais Michel, c'est plutôt un coup de chapeau envers toi que je voudrais quand même effectuer, puisque quand même tu portes cette émission depuis 20 ans. On a une durée de vie quand même qui est plus longue que celle du Moscato Show, qui est à la même heure sur une autre antenne. Donc il y a quand même beaucoup de concurrence à nouveau depuis qu'on est présent dans cette émission aujourd'hui. Donc j'espère qu'on va tenir le bon bout jusqu'à la fin de l'émission. Donc merci Michel encore une fois de ton invitation et de nous réunir ensemble.
C'était un plaisir, c'était un plaisir. Alors le 28 août 2003, Loïc a 5 ans et puis l'émission change de format, de durée, de jour et d'horaire. C'est désormais le jeudi à 17h, une heure très rapidement consacrée à l'actualité de la musique sous toutes ses formes. À mes côtés, celui que Christian surnommera affectueusement le Jean-Luc Grodard de Tropic FM. Tout ça parce qu'il a osé tenir la caméra à l'arrivée dans la cour d'Estelle Bratezzani, la chanteuse de Feu Lubi. Hein, rappelle-toi Christian, dont faisait partie notre ami Filouns quand même. Hein. Oui. Eh oui. Donc, il a fait son grand retour dans les studios de Radio B, qu'il n'a jamais fréquenté, je crois, c'est sûr. Ou alors, si, mais pas avec moi, mais bon, a priori, non. Hein, tu n'es jamais revenu depuis 2014.
Ah non. Ouais, ni la nuit, ni le jour.
Voilà. De mon temps, on commençait l'émission à 17h. Jugez plus tôt.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Terminus des Prétentieux. Nouvelle formule, nouveaux horaires. Le jeudi, entre 17h et 18h, est nouvel animateur. Vous ne le connaissez pas encore. Et pourtant, il manie le tire-bouchon et la langue de Molière avec une telle dextérité qu'il ne pouvait pas ne pas intégrer l'émission. Même s'il avoue un certain penchant pour la musique funky, n'est-ce pas? N'est pas jamais requis et qui veut. Il fait ce soir son mea culpa. C'est sa première au micro d'une radio, à l'image d'un Christian, d'un Jean-Philippe ou d'un Frédéric. Il va se découvrir un nouveau talent, celui d'animateur, chroniqueur, intervieweur. Bienvenue au Terminus des Prétentieux et sur Tropic FM. Bonsoir Cyril.
Eh bien, bonsoir Michel. Merci pour cette introduction. Je vois que tu m'as tout de suite cadré. écoute, je suis le petit nouveau, donc j'en profite tout de suite pour prendre des libertés. Un petit bonjour personnel à Alex. Et j'espère que tout se passera bien et que je ne me ferai pas virer au bout de la première émission.
Voilà, non, effectivement. 17 ans ou presque plus tard, rien n'a changé. Il ne s'est pas fait virer, rassurez-vous. Hein. De là à dire que c'était mieux avant, il y a un pas qu'il ne franchira jamais. Cyril, bonsoir.
Bonsoir Michel, oui si c'était mieux avant, je n'ai pas relevé le gant à la hauteur des grands anciens qui restent pour nous tous un exemple. D'ailleurs tu as passé quelques extraits qui montrent le degré étonnamment bon de leurs critiques et de leurs remarques tout au long de ces 10 ans qu'ils ont, enfin ouais, peut-être 10 ans avec toi qu'ils ont passé, non ouais. 3 ans, oui, bah, dis donc, vous êtes arrivé en 3 ans à dire un nombre 3. De conneries absolument incroyable quand même. Non, je reste immensément respectueux vis-à-vis de tout ça.
Après 10 ans de bons et loyaux services, Cyril nous quitta. Hein, l'appel de la Micheline étant décidemment plus fort que celui de... Ah, à l'époque, il était très branché
Micheline. Ah ouais, très branché Micheline. Hein. Très branché Micheline. Ouais. Je l'ai connu sous toutes ses formes.
Non, il parle de la Micheline.
Il y a une histoire de drogue entre vous, je crois, sinon.
Donc, pour la remplacer, donc, je fis appel à une autre de mes relations. La première fois, il ne savait pas que son destin serait radiophonique.
On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Bah, peut-être pas, Antonio, j'espère...
Non, je vais pas venir tout le temps quand même.
Une prochaine fois.
Une prochaine fois.
Alors, quand l'envie t'en dira.
Voilà. Ça marche, merci.
Voilà, bah, quelques mois plus tard, il faisait ses grands débuts. Vous avez même pas pu entendre Cyril qui disait voilà à la fin. Voilà, parce que ça, la première fois qu'il est venu, bah, il n'était pas encore animateur.
Non, maintenant il habite ici.
Cyril était là encore.
Ouais. Donc, je disais, quelques mois plus tard, il faisait ses grands débuts sur les 90.0 de Feu Tropic FM. Ainsi débutait officiellement le 4 juillet 2013 mon co-animateur. Et pour le tester, quoi de mieux qu'un groupe islandais, l'un des plus grands de la scène rock, Sigur Rós.
Hein, qu'on écoutera tout à l'heure.
Voilà, et croyez-moi, annoncer un morceau en islandais, ça vaut tous les euros du monde. passage plus que réussi, puisque plus de 7 ans après sa première officielle, il est encore parmi nous. Malgré le coronavirus et ses voyages fréquents hors de France, il a toujours tenu sa place. Il est devenu, au fil des temps, la caution rock indé de l'émission. Girls in Hawaii, c'est lui. Interpol, The Killers, Editors, c'est aussi lui. Ouais. Arcade Fire et Radiohead, aussi désormais. Tonio, bonsoir.
Salut Michel, salut à tous. Voilà, pour Arcade Fire, je laisse à Christian. Hein.
Ouais, ouais.
Il m'entend pas.
Ouais,
je te laisse faire. Alors moi, je vais faire comme d'habitude, je vais faire très très court. Simplement, une toute petite remarque. Ah. C'est que j'ai jamais écouté les émissions de 2000 à 2003.
Quoi ?
Ouais, désolé.
Mais t'étais pas sur place ?
Non, j'étais pas ici. J'étais voilà, pas encore.
Il y avait pas internet à l'époque.
J'étais pas revenu à Bourg.
Oui, voilà. Mais c'était obligatoire. Hein,
ouais, je sais. Ouais. Mais je remarque une chose, c'est que plus les années passent, plus Michel parle vite.
Ah, c'est vrai ?
Ouais. Ah. Si vous écoutez bien le morceau que, enfin, vous réécouterez le morceau que t'as passé tout à l'heure.
Ouais.
Tu parles très lentement. Ah, alors ouais. Que maintenant, t'es le TGV, quoi.
Ah ouais.
Ouais.
Alors que pour le Corona, c'était quand même plus cool. Hein.
Bah,
c'est
ouais,
marrant,
ouais.
Le montage aide peut-être.
Peut-être.
C'est les médicaments pour le cœur.
Ah, c'est peut-être ça.
Ouais, je pense que j'en aurai bientôt besoin. Ouais. On y va ? Allez.
Allez, go.
Allez, go.
I'm not afraid to die.
Gate et son piano obsédant sur l'excellent troisième album du groupe Arcade Fire in the Suburbs, c'était déjà en 2010. Voilà, pour ma part, s'il fallait retenir un groupe marquant ces deux décennies de Terminus des Prétentieux, bien c'est vrai, le Canada que je me tournerais, un Canada qui a retrouvé son âme quand même, hein, après nous avoir copieusement abreuvé de chanteuses insupportables, et au sein de cette équipe insupportée d'ailleurs. Bon, depuis le début de ce millénaire, disons que l'Angleterre a cessé d'être personnellement le pays de cocagne qu'elle a été durant les années 90. On a eu droit à des groupes parfois brillants mais interchangeables, enfin, c'est mon avis. Une exception notable, Radiohead évidemment, qui a poursuivi sa route spirituelle et musicale de façon assez peu linéaire, mais toujours crédible. Et puis Tonio en a parlé un petit peu tout à l'heure, la Belgique a bien, comment dirais-je,
Relevé le gant,
puisqu'on a eu droit à des groupes comme Deus, Ginzu, en passant par Venus ou Girls in Hawaii, des groupes qu'on a tenté de vous faire apprécier au sein de cette émission. Si claque il y a eu en ce qui me concerne, elle vient tout droit de Montréal et d'Arcade Fire, un groupe pléthorique à géométrie variable, emmené par un couple charismatique s'il en est, le grand échalas Wynne Butler et sa brunette d'épouse, Régine Chassagne, qui a des origines haïtiennes. Un album venu de nulle part en 2003, le très remarqué Funeral, et son cortège de chansons à la fois sombres et enlevées, ce qui n'est pas un mince exploit. Un groupe qui tapera tout de suite dans l'œil, excusez du peu, de David Bowie, qui a eu l'occasion de les rejoindre sur scène et qui apparaîtra de façon très remarquée sur l'album Reflector.
Il en est mort, d'ailleurs. Oui, il en est mort.
Non, je crois qu'il n'y a pas de lien. Ils sont actuellement 6 au sein d'Arcade Fire, enfin ils sont une bonne dizaine sur scène. C'est d'ailleurs une formation extrêmement impressionnante en concert. Je ne sais pas si Val Poer nous écoute en ce moment, on l'embrasse, mais elle saurait de mon avis, elle qui les a vus aux Nuits de Fourvière, avec cette musique baroque, souvent lyrique, aux antipodes du minimalisme, servie sur scène par une troupe de multi-instrumentistes, alors à l'enthousiasme communicatif très généreux. Et puis donc un album Funeral qui fera entrer de façon fulgurante les Canadiens dans le concert des groupes phares à l'échelle de la planète. Ben finalement, peu de disques en 17 ans, il y en a 5 en studio. Le dernier en date, Everything Now, date maintenant de 2017. Mais ce sont des albums qui ont confirmé à des degrés divers de réussite l'exubérance naturelle de ces musiciens, leur habileté à mélanger les genres, leur capacité à jongler avec les instruments, parfois au sein d'un même morceau. Et puis bonne nouvelle, il y a un album à venir sous peu, puisqu'apparemment Wynne Butler et son épouse ont bien bossé pendant le confinement, ça fera plaisir à Blanquer, et je pense que le Terminus vous tiendra informé de l'actualité des Canadiens, en charge Tonio de surveiller ça, voilà.
Ça marche, Christian.
Et quel groupe de live?
Ah, c'est un groupe de live absolument extraordinaire. Il y a une profusion de musiciens sur scène, il y a une pêche monumentale et j'en garde un très grand souvenir aux Nuits de Fourvière.
Pareil.
C'est un peu le même souvenir quand on avait vu les Gypsy Kings tous les deux, tu te souviens?
Dans la caravane.
Il y a un peu moins de musiciens et d'instruments hein, quand même. Ouais.
C'est vrai.
Cinéma! Cinéma! De Saint-Lantin et de film en film, je t'ai donné mon existence. Et toi, Gabin, fils de Lucien, le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma! Cinéma!
Il est 17h passé de 42 minutes sur les 90.0
ça file.
De Radio B, ou alors Tonio?
Ou alors, je vais pas le dire, parce que cette émission va être rediffusée ou pas? Tu m'as pas tenu informé, donc je peux pas te dire.
Oui, bah bien sûr, évidemment.
Ah, il fait plus d'une heure, fait comment?
On se débrouille,
Tu vas me faire des
alors,
coupes.
Il sera quelle heure?
Il sera, je sais pas moi. Cyril?
Moi, ça fait longtemps que je suis plus les horaires. Hein.
Bon, toi, tu dis quoi, toi, si vous êtes
hein, Fini ton. Vas-y, recommence alors.
Eh bien, il est 17h passé de quelques minutes sur les 90.0 de Radio B. Ou alors, Tonio?
Ou alors, vous écoutez l'habituelle rediffusion du vendredi matin si vous êtes avec nous depuis 9h. Ou ce samedi après-midi depuis 14h.
Voilà. Ou alors, Cyril?
Mais vous avez combien de rediff maintenant, monsieur?
Non, mais il y en a deux maintenant.
On s'en sent plus là, les enfants.
Rappelle-toi ce que tu disais à chaque fois.
Oui, la sacro.
Si vous écoutez quoi
là, la sacro-sainte rediff du.
Eh oui.
Heureusement, je suis là. Hein.
Ah ouais, non, non, merci. Ouais. Bah, tu sais, c'est lâche ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Pour ça, on compte sur toi. Tu tiens les manettes. Il faut nous rappeler tout ça.
Maintenant, t'as des lunettes alors que t'en avais pas avant.
Exactement. Non, non, non. Puis je suis captivé par la réécoute de tous ces jingles qui me manquaient tant, en fait.
Bien, alors il est l'heure de saluer nos auditrices fidèles, celles sans qui nous ne serions pas là ce soir. Élodie, Pauline, Gaëlle, Anouk et Anne.
Ah.
Et, voilà, et je rajouterai Marie qui nous écoute et que je salue. Rassurez-vous les garçons, chers à Gisled, nous ne vous oublions pas. La partie cinéma a fait son grand retour dans l'émission. Hein, et qui dit cinéma dit blind test. Ce soir, pas de place à gagner pour l'Eden à Bourg-en-Bresse ou le Centre culturel Aragon à Oyonnax. Non. Juste le plaisir de trouver le nom de ce film français que Patrick semble apprécier tout particulièrement, je sais pas pourquoi. Et si vous avez trouvé, vous pourriez appeler au 04 69 19 55 62, mais la ligne est prise. Christian nous l'a un petit peu de toute façon, et en plus, il n'y a rien à gagner. Mais vous
pourrez... Un masque hein.
Juste le plaisir.
J'ai les drôles alcooliques.
Voilà, juste le plaisir de passer en direct sous les ondes de Radio B, mais écoutons plutôt ce blind test.
Can I have some champagne?
Qu'est-ce que vous faites là?
It's your friend Antoine. Il m'avait dit de venir. Bonjour. Bonjour. Ça va?
C'est du vin.
Thank you. Et derrière, c'est un incredible...
En français.
Oui. Il y a un monde incroyable. Mais il est connu comme peintre.
Ah, monsieur Castella.
Ah, bonjour.
Alors, ça vous plaît?
J'ai pas regardé encore.
C'est qui, lui? Tu le connais?
Non.
Charmant.
Hein. J'aime pas les moustaches de toute
façon. Ah bonjour, bravo. Hein. J'ai pas encore regardé, mais il y a plein de monde. Hein. Je savais pas qu'il y avait autant de gens moi, dans cette ville. Vous êtes content, hein? Mm. T'es pas content?
Si, mais il boude parce qu'il y a des tas de journalistes qui devaient venir et qui sont pas venus.
Ah bon? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas? C'est vraiment des gros PD, c'est incroyable.
Des gros PD, c'est-à-dire?
Des PD, quoi. Je
veux dire des gens qui s'enculent. Comme mon ami et moi, par exemple.
Antoine, je te sers. Benoît, tu veux quelque chose?
Alors, si vous êtes des fidèles de l'émission et surtout du Before, hein, vous savez, les intermèdes musicaux et cinématographiques qui vous font attendre 17h15 sur les 90.0 de Radio B le jeudi soir, vous l'avez forcément entendu au moins une fois et vous avez reconnu Le Goût des Autres, hein, un film de 2000 réalisé par Agnès Jaoui avec son compagnon à l'époque, hein, Jean-Pierre Bacri, dans le rôle de Castella, un chef d'entreprise peu porté sur la culture, pléonasme. Ce dernier rencontre Clara qui va lui donner des cours d'anglais, mais pas facile de s'intégrer à ce milieu artistique. À moins que cela ne soit ses codes bien loin de celles du monde du fric et des cons, même si les journalistes, décidément, ça ose tout. Et c'est peut-être d'ailleurs à cela qu'on les reconnaît. Messieurs, vous aviez forcément reconnu, hein, il fait partie de vos films de chevet.
Oui. J'en ai d'autres en tête, mais pardon. Hein. Mais oui. En tout cas, je l'ai vu une fois, ça me suffira. Mais c'est de très bonnes factures.
Bon, parce que c'est quand même Patrick. Ouais.
Ah ben voilà, Jaoui habillé pour l'hiver.
Voilà, Patrick.
Non, rien. Mais moi, les propos homophobes, ça me gêne toujours un petit peu. Hein.
Bon, on y va là. On continue. Hein. Je sens que ça jette un froid là. J'ai lâché l'heure qu'il fait. Il était temps. Bon, bien. Alors, pendant 3 ans, donc, il y avait une rubrique que personne n'aurait ratée pour rien au monde. C'est celle des sorties en salle. Pendant ces 20 ans, il y en a eu, hein, des bonnes et malheureusement des moins bonnes.
Ah, ça.
Hein, nous en parlerons tout à l'heure avec les films. Enfin, oui, j'en parlais tout à l'heure parce qu'il n'y a que moi, visiblement, qui ai trouvé un film à ne pas voir et pas uniquement à la télévision. Tellement que vous avez des goûts vraiment différents des miens.
Il n'y a que toi qui regarde la télé.
Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. On va commencer avec notre réalisateur jamais à bout de souffle. Hein, suivez un petit peu le truc. Le jour où il a quitté les ondes, il ne se rappelait plus de l'adresse de Radio B. Souviens-toi, lui a rappelé Alex, que s'est-il tatoué sur le corps? Le nom d'un film bien étrange que nous présente Cyril.
Oui, merci Michel. tatoué sur le corps. Non. T'as travaillé ton truc. Ah non, non, mais c'est bien, ah, mais c'est bah, bien. Au moins, t'as regardé. T'as, parce que je sais pas si tu connais le film dont je vais parler. Bah oui, forcément, personne ne connaît ce film. C'est étonnant. Pourtant, le réalisateur, tout le monde le connaît, Christopher Nolan. Entre les Batman et Interstellar, vous avez de grandes chances d'avoir déjà vu un de ses films.
Oui, puis c'est le seul film qui est sorti en ce moment avec Tenet.
Oui, c'est vrai. En plus, effectivement, effectivement. Alors, sachant que les Batman, je sais pas si on peut les qualifier de grands films, mais bon, Interstellar ou peut-être Tenet rattrape les autres. Mais en tout cas, si vous connaissez Christopher Nolan, sans doute ne connaissez-vous pas une de ses premières réalisations sorties en 2000, un film nommé Memento, un film méconnu qui mériterait pourtant à mon sens une place de choix dans le classement des meilleurs films de tous les temps. Alors si le pitch du départ semble des plus classiques, hein, un homme qui part à la recherche du meurtrier supposé de sa femme, Christopher Nolan pimente rapidement la situation. Le personnage principal souffre en effet, attention, instant culture, d'amnésie rétrograde, le trouble de la mémoire qui porte sur les faits postérieurs à l'accident qu'il a provoqué. Et donc par une astuce de réalisateur, il vous plonge littéralement dans la vie de cet amnésique. En effet, le film s'ouvre avec la fin de l'histoire, la dernière scène, puis le film progresse de la scène Y à la scène Z, puis de la scène X à Y, et ainsi de suite, la fin d'une scène recouvrant à chaque fois le début de la scène précédente. Déroutant, intriguant, un vrai plaisir à voir et à revoir, car ce film parle aussi et surtout en fait de la confiance, de la place de la mémoire dans la vie d'un homme, de sa façon d'emprunter son présent et son futur en l'absence de mémoire sur laquelle se construire, etc., etc. Un film d'une profondeur insoupçonnée qui donne du plaisir dès la première vision, ça devrait plaire à Christian, et qui ne se laisse apprivoiser que peu à peu. Une vraie perle, je vous le dis.
On reste dans le bizarre, cher Francis Blanche, avec l'un des maîtres du genre. Encore une bêtise, mais ce n'est pas celle de James Ellroy, mais de Frédéric.
Oui, on a été deux animateurs à se télescoper pour le choix du film. Je citerai Christian. Moi, mon choix s'est porté sur Mulholland Drive de David Lynch, sorti en 2001. Ouf, ça reste dans les deux décennies du Terminus.
Ouais, c'est bon.
Tout simplement parce que c'est grâce à ce film que j'ai compris que le cinéma était un art. Ouais, franchement, au sens propre comme au figuré, c'est un film à clé. Il y a d'abord, dès le commencement, cette mystérieuse clé bleue trouvée par les deux héroïnes au fond d'un sac. Et évidemment, il y a le fait que cette clé elle-même doit être pensée, interprétée, déchiffrée par les spectateurs pour résoudre plusieurs mystères. Eh bien, l'émotion que j'ai eue en sortant du film, c'est, je me souviens bien d'être resté véritablement stupéfait pendant au moins 10 minutes. J'ai rarement connu cela au cinéma. Pour preuve, et comme le goût des autres, mais pour une autre raison, je me refuse encore de le revoir pour rester sur cette impression magique que j'ai eue il y a près de 20 ans. Christian, peut-être que tu voulais dire quelque chose sur Mulholland Drive aussi.
Bah moi, j'ai ressenti la même sidération. C'est vrai que... Par contre, moi, je l'ai revu une vingtaine de fois. Et à chaque fois, il y a des grilles de lecture différentes. Enfin, je veux dire, c'est un film qui foisonne tellement qu'on peut rentrer dedans par n'importe quelle porte. Il y a un truc qui est important dans ce film. Alors, il y a une intrigue très mystérieuse, un moment où Lynch rebat les cartes à peu près aux deux tiers, aux trois quarts du film, justement quand cette fameuse boîte bleue tombe à terre. Mais il y a aussi un hommage de Lynch au cinéma. Lynch est quelqu'un de très cultivé, de très cinéphile. Il y a vraiment des références à Hitchcock. Et puis il y a sa façon de voir Hollywood, qui est une façon tordue, hein, la manière de Lynch. C'est-à-dire un visage à deux facettes. Il y a la facette rêvée quand Naomi Watts débarque de son avion à Los Angeles et qu'elle est émerveillée par ce qu'elle voit quand elle arrive devant le portail du studio. Et puis il y a la vision réaliste, cruelle, sordide presque, de ce qui s'est passé réellement, du fait qu'elle n'a pas réussi à atteindre le rêve qu'elle s'était fixé. Et il y a ces deux aspects qui sont constants dans tout le film de Lynch et qui le rendent passionnant. On n'a pas parlé de l'interprétation, mais il a révélé deux actrices exceptionnelles, Laura Haring et Naomi Watts, qui a fait la carrière qu'on fait. Et c'est un film qui est riche de tellement de lectures qu'on peut le revoir à l'infini.
Évidemment, c'est par flemme que je ne suis pas retourné. Mais c'est un film puzzle, effectivement, qui se découvre au fur et à mesure.
Toujours aussi étrange avec Christian, et un hommage à un fugitif. Non, il ne s'agit ni d'Harrison Ford ni d'Alain Delon.
Non, tu veux parler de Polanski?
Ah.
Bon, je vous ferai bien, je vous ferai pas une Foresti, hein. Je suis là pour parler du film.
Mais avec plaisir.
On a si peu parlé de cinéma au César qu'il serait peut-être le moment d'en parler.
Bon, si c'est comme ça, je quitte l'émission.
Voilà, c'est ça. The Ghostwriter, pour moi, c'est peut-être le meilleur film que Polanski ait tourné. Il en a tourné pas mal. The Ghostwriter, c'est littéralement l'écrivain fantôme, hein. C'est le nègre littéraire, c'est-à-dire la personne chargée de rédiger un livre à la place d'un autre. Donc le pitch, on confie au personnage, qui n'a pas de nom d'ailleurs, joué par Ewan McGregor, la mission de rédiger les mémoires d'un ex-premier ministre britannique, exilé sur une île perdue du Massachusetts.
et il succède ainsi à un collègue retrouvé mort sur une plage dans des circonstances douteuses. Alors c'est un Premier ministre sur le modèle un peu Tony Blair, qui est brillamment interprété par Pierce Brosnan, et qui a des ennuis puisqu'il est menacé d'être traîné devant un tribunal international pour avoir ordonné des tortures à l'encontre de présumés terroristes, alors qu'il était en place. Notre écrivain raté mais nègre talentueux mettra les pieds dans une machination politico-judiciaire bien trop grande pour lui, et il s'y brûlera les ailes. Je ne dévoile pas la spectaculaire scène finale, alors, qui prouve définitivement que Polanski est un immense réalisateur. C'est un film au scénario qui est cruel, à la réalisation brillante, je l'ai dit. Polanski donne le ton dans la scène inaugurale. Si vous l'avez vu, il y a un plan d'une voiture toute seule au milieu d'un parking vide, après que toutes les autres ont débarqué du ferry. Plan suivant, un cadavre sur une plage, et on s'imagine que c'est celui du propriétaire de la voiture. Voilà comment réussir à créer un climat insolite en deux plans, et puis un suspense qui ne faiblira jamais. Ça se passe dans une île qui est balayée par le vent et la pluie, c'est magnifiquement filmé par Polanski. Il y a une tension qui est palpable et qui fait que monter au fur et à mesure que l'écrivain avance dans son enquête. Ça le mènera aux portes de la CIA, il finira par s'y engloutir. Alors c'est un... Moi j'ai été très émerveillé par la distribution. Ewan McGregor, c'est un acteur qui m'a rarement convaincu au cinéma, et là je trouve qu'il est absolument parfait. Le reste de la distribution est à l'unisson. Polanski, il multiplie les scènes fortes. Il a eu une excellente idée, celle de rappeler un très vieil homme solitaire que vous connaissez tous, qui était joué par Elie Wallach. C'était le truand dans le fameux film de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand, avec bien des années en plus. Voilà, donc c'est un thriller politique qui est passionnant, qui est maîtrisé de bout en bout. Polanski s'était déjà essayé au thriller avec Frantic, notamment, mais alors c'était pas du tout du même niveau. C'est un grand directeur d'acteurs, la distribution est formidable. Il y a Cerise sur le gâteau, il y a une excellente musique d'Alexandre Desplat, qui est un peu le compositeur de musique à la mode. Et voilà, c'est un film qui est jubilatoire et qui méritait qu'on en parle pour ses 20 ans du Terminus.
Quand le théâtre inspire le cinéma, et rarement l'inverse, hein, cela donne l'histoire de deux frères dans un combat géopolitique dont est friand notre professeur émérite, hein, le sieur Jean-Philippe.
Merci Michel. Effectivement, mon coup de cœur cinématographique des 20 ans est un film d'un réalisateur québécois. Non, il ne s'agit pas du prodige Xavier Dolan, dont le style qualifié par ses détracteurs de pompiers pourrait ne pas convenir aux ayatollahs de la critique cinématographique du Terminus. Mais quand je dis pompiers, ça tombe bien, puisque mon film des 20 ans s'intitule Incendie, au pluriel, de Denis Villeneuve. Non, il ne s'agit pas d'un film sur la Californie où chaque année, on est toujours surpris d'apprendre qu'il y a encore des forêts à brûler. Incendie est bel et bien une fiction se déroulant entre le Québec et un pays du Proche-Orient, victime d'une guerre civile opposant différentes communautés religieuses. Le Liban, jamais cité dans le film mais facilement identifiable, est la patrie de Wadji Mouawad, dramaturge et auteur de la pièce de théâtre que Denis Villeneuve adapte, comme tu l'as dit Michel, sur grand écran. Alors il suit l'itinéraire d'un frère et d'une sœur, des jumeaux d'origine libanaise, et vivant au Québec au début du XXIe siècle. Ces derniers cherchent à revenir sur le passé de leur mère défunte, après avoir appris que, d'une part, leur père est toujours vivant, et d'autre part, qu'ils ont un frère dont ils ignoraient l'existence. Cela les conduit à faire ressurgir, évidemment, tous les fantômes du passé, ceux très personnels de la mère, indissociables de ceux plus collectifs de la nation libanaise. Ainsi, le film va et vient entre le passé et le présent, révélant l'histoire tragique de la mer à travers les incendies, au propre comme au figuré, qui embrasent tout un pays et traumatisent profondément les individus. Bref, tragédie et traumatisme, tous les ingrédients d'une réécriture de mythe grec sont réunis pour faire d'Incendie un film choc, dont une des clés de lecture se cache dans l'énigme mathématique posée au début. 1 plus 1, ça peut-il faire 1 ? Bon, je ne vous fais pas avec l'accent québécois, parce que j'ai l'accent québécois belge. Mais le film révèle aussi un talent, celui du réalisateur Denis Villeneuve. À l'image de Steven Soderbergh, Villeneuve est un réalisateur caméléon, capable de s'emparer de sujets très différents pour en faire des œuvres fortes et originales, tout en y apposant son empreinte, son style. Ainsi, il passe de la tragédie d'incendie au thriller dérangeant de Prisoners, ou à la SF métaphysique et philosophique de Premier Contact. C'est lui qui a signé Blade Runner 2049, une suite tout à fait à la hauteur du film de Ridley Scott. D'ailleurs, il est difficile de classer ses œuvres dans un genre tant elles sont hybrides, comme l'excellent Sicario, qui oscille entre le film policier, le film de guerre et celui de gangster au fur et à mesure que la caméra adopte un point de vue différent. Plus qu'un film, c'est donc toute une filmographie que je conseille ce soir aux nombreux auditeurs du Terminus des Prétentieux. Peut-être que Fred veut rajouter quelque chose.
Non, mais moi je suis convaincu. Oui, bah, j'aurais pu prendre Incendie, effectivement, et c'est un grand film, moi pareil, qui m'a scotché quand je l'ai vu, même si c'est effectivement une adaptation d'une pièce de théâtre au départ, donc il n'a pas inventé cette histoire-là, mais en tout cas, c'est ça, on a de la chance d'avoir un réalisateur comme ça, et qu'on puisse le voir en ce moment, et vivement qu'il sorte le prochain film, qui est Dune.
Mais curieusement, pour 1 plus 1 égale 1, ça m'a rappelé une célèbre saillie de Desproges qui disait que le plus court chemin d'un point à un autre n'est pas la ligne droite, sauf si évidemment les deux points sont bien en face l'un de l'autre.
Ça se défend.
Thank you.
Oui, Michel, on vient d'écouter Hans Zimmer qui a produit, composé la musique de Inception, un film de Christopher Nolan. On en a parlé tout à l'heure pour Memento, donc un film sorti en 2010. Et donc, on a entendu Time, qui est un peu la musique qu'on entend tout le long du film. Alors, je pouvais difficilement ne pas séparer la BO des 20 ans de son attribut cinématographique. En d'autres termes, peut-on apprécier une bande originale de film si ce dernier est pourri ? Vaste question que je vous propose de traiter pour les 40 ans du Terminus des Prétentieux. Et puis je voulais éviter de tomber dans le piège de la BO, simple playlist de musique d'artistes, n'est-ce pas Quentin Tarantino. Bref, vous m'aurez compris, la BO d'un film ne se fait pas sans l'association d'un grand compositeur et d'un grand réalisateur, à l'instar du duo étalon hors compétition, Léon et Morricone. Alors pour le coup, je crois que les années 2000 ont été l'avènement d'un duo particulièrement doué, innovant, créatif et j'en passe. Il s'agit donc de Hans Zimmer et de Christopher Nolan. Même si Zimmer a travaillé plusieurs fois avec Ridley Scott, hein, Thelma et Louise, Gladiator, Hannibal, La Chute du Faucon Noir, je confirme que c'est son association avec Nolan qui l'a rendu encore plus attractif à mes oreilles. Et on connaît l'obsession de Nolan pour le temps. J'aime à dire d'ailleurs que c'est un cinéaste quantique. Zimmer a justement réussi à composer une BO pour Inception intemporelle, suspendue en lévitation. Et un point technique, hein, je me suis un peu renseigné parce que j'ai préparé l'émission, hein, ça fait plaisir, après le confinement il faut un peu bosser. Les caractéristiques du style de Zimmer peuvent se résumer en trois points. Donc l'approche minimaliste dans la composition est modeste dans les harmonies, finalement assez proche d'un son pop. La deuxième chose, c'est qu'il utilise énormément d'énormes ensembles philharmoniques, qui peut utiliser jusqu'à 16 corps ou bien encore 10 personnes à taper sur les percussions. Et puis la troisième caractéristique, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle l'ostinato, voilà, que j'ai découvert. C'est un mode répétitif souvent effectué avec des instruments à cordes. Cela crée une pulsation excitante, menaçante, et justement dans cette BO, il y en a plein. Voilà, Michel.
Si Inception fait partie des films à voir à la télévision et ailleurs, hein, il n'en est pas de même pour d'autres. Cela leur a même valu au début de l'émission une rubrique « Le monde des ondes nous envie », les films à ne pas voir à la télé. Le choix fut cornélien et malgré les efforts de Jean Dujardin et Christian Clavier, même pas réunis, hein, j'ai décidé d'attribuer la palme du film de mes 20 ans à ne pas voir, et pas seulement à la télé, à Camping, et pas uniquement pour la présence énervante et fatigante de Franck Dubosc, qui s'appelle Patrick Chirac, à une insulte pour ceux qui l'a fête le 17 mars. Ah oui. Il y a aussi Gérard Lanvin, Claude Brasseur, qui a piqué la place de Jacques Villeray, décédé peu de temps avant, et Mylène de Mongeau, dans cette comédie bien française, hein, comme on les aime, lourde, pas drôle, mal jouée, et qui bien évidemment eut beaucoup trop de succès. Au point de sortir Camping 2 et Camping 3, pour notre plus grand malheur, le film a même été récompensé, c'est pour vous dire, au Energy Ciné Award, avec le meilleur film qui fait rire, et la meilleure réplique pour Franck Dubosc, je ne sais pas laquelle c'était. Ce n'était pas « Si tu reviens, j'annule tout », malheureusement.
En fait, Michel, tu sais, il ne faut pas être trop difficile avec le cinéma, parce que Christian nous a présenté de très beaux films, mais en même temps, c'est un petit peu compliqué, les goûts et les couleurs. Avant l'émission, il me disait que, certes, il aimait beaucoup The Ghostwriter, mais qu'il avait eu aussi beaucoup d'émotion dans la série des gendarmes. Donc on peut aussi apprécier des comédies populaires, d'autant plus qu'ensuite il y a eu Camping 2, et franchement moi je trouve que Camping 2 c'était pas mal. C'est... Ouais.
Enfin, ouais. Moi j'avais un petit fait pour les tuches, c'est dommage que tu n'y aies pas pensé.
Mais oui, puis comme mon tableau c'est pas bien rempli avec le temps. Hein.
Juste terminer sur une note positive, Michel, bon tu m'as censuré, j'ai pas le droit de parler des Misérables, hein, le dernier film qui m'a procuré une
salope. je l'ai regardé exprès pour toi. En plus.
Mais juste en quelques mots, Les Misérables, bon, tout le monde en a parlé, je vais pas être très, très très long, mais en tout cas c'est une excellente thérapie contre les chaînes d'information en continu qui depuis 3 jours nous parlent de la sécurité en banlieue et qui parlent de la petite délinquance. Je rappelle quand même que les chaînes d'information en continu, la grande délinquance, elles en parlent très peu, sauf pour recevoir Patrick Balkany ou Carlos Ghosn en grande pompe. Alors j'en profite.
La mise en décharge.
Voilà, j'en profite pour faire un petit bisou à Léa Salamé, à Pauline de Malherbe et conseille à tous nos auditeurs, s'ils ne l'ont pas vu, de voir ce film Les Misérables qui a donné un sacré coup de vieux au film de Kassovitz, La Haine, qui est ressorti il y a quelques temps les écrans. La Haine, c'est un film qui, quand on le revoit 25 ans après, reste quand même un petit peu pompeux au niveau de la mise en scène, alors que Les Misérables vous file quand même une grande claque dans la gueule avec des acteurs comme Damien Bonnard, qu'on voit beaucoup actuellement au cinéma, qui est à mon avis un des grands acteurs en devenir du cinéma français.
D'accord. Cyril ?
Bah, pas grand chose à ajouter. Oui, je suis assez d'accord sur l'analyse entre La Haine et Les Misérables. Après, on verra si on voit Les Misérables dans 20 ans, ce qu'on pensera de la mise en scène. Voilà, il y a toujours ce décalage un petit peu. Mais La Haine, c'était à l'époque un grand film. Sur Les Misérables, oui, je partage assez son avis, et en particulier sur l'acteur qui, ouais, je pense, va faire du bruit rapidement.
Bien. Alors, si Inception ne fait. Donc, qui dit. Oui, donc.
Pas facile à dire.
Non, j'entends un petit peu mes fiches. Alors, qui dit Sigur Rós dit forcément Tonio, un groupe qui l'a fait souffrir dès la première émission lorsqu'il a fallu prononcer le nom de l'album et de la chanson. Hein, 7 ans plus tard.
C'est en train tout de me spoiler, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est 7 ans plus tard.
Je fais ma chronique à ma sauce, comme ça, avec d'autres mots et puis d'autres. Voilà. D'autres tournures de phrases.
7 ans plus tard, c'est un Islandais fan de rock indé convaincu. En un mot, je précise, qu'il nous présente les Reykjavikois au style vocal et à l'archet.
Qu'est-ce qu'il va chercher
c'est le nom des gens de Reykjavik.
Oui, non,
t'attends d'apprendre.
Merci, Michel.
Au style vocal et à l'archet inimitable.
Bon, en fait, non, Michel, je ne vais pas vraiment te les présenter parce que je n'ai pas envie de faire un truc de présentation. Je vais simplement lire ce que j'ai fait.
Okay.
Et puis, vous verrez que Michel m'a complètement tout foutu en l'air. Mais bon, c'est pas grave, je vais balancer ça à ma sauce.
Balance.
Mais c'est bien pour les 20 ans.
Voilà.
Donc, effectivement. J'ai choisi Sigur Rós, comme tu l'as dit, un groupe de Reykjavikois, je ne sais pas comment tu as dit, mais plutôt un groupe islandais qui s'est formé en 1994. Et bon, ça c'est pas ça m'affiche, mais on peut parler de Radiohead aussi un petit peu, parce que du coup, Radiohead les avait pris en première partie de certaines de leurs tournées. Donc voilà, ça c'est pour faire le lien.
Mm-hmm.
Et donc effectivement, lorsque tu m'avais proposé de participer à l'émission en 2013, donc à l'essai, hein, je ne savais pas si j'allais revenir, tu m'avais demandé de chroniquer ce groupe.
Excuse-moi de te couper, Tonio, est-ce que nous, à l'époque, quand tu nous as recrutés, il y avait un examen de passage qui était assez douloureux. Est-ce que ça a été ton cas aussi?
Ah, avec des gants, non?
Non, nous, il n'y avait pas de gants.
Ah, il n'y avait pas de gants. À sec? Non. C'était à sec? Oh, purée, Michel.
Ceux que j'embauche désormais, ils ont connu la sonde en double J.
Oui.
Ça, c'est ce qui nous réunit.
C'est ce que, ouais, tout à fait, Michel.
Ah, c'est fou, ça.
Hein, on compare à nos collections.
C'est Cyril qui avait commencé. Bon, on a suivi son parcours.
Moi, j'en ai eu qu'une. Toi,
quel parcours?
T'es le king, Michel.
King size.
Donc effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était le 4 juillet 2013, petit Michel. Mais bon, Michel, t'es sympa, mais t'as un côté vache, effectivement. Le côté sympa, c'est de m'avoir donné Sigur Rós parce que ça pouvait me plaire, effectivement. Et puis le côté vache, comme tu l'as dit, c'est qu'un groupe islandais qui peut avoir quand même des titres en anglais. Ouais, mais c'est très peu le cas pour Sigur Rós, malheureusement, puisque eux se caractérisent surtout par des titres en islandais, et puis même avec une langue que le chanteur a inventée, le volonska. Mais les titres en islandais sont difficilement prononçables pour un franco-espagnol comme moi, quoi. Donc si tu m'avais donné un groupe espagnol, peut-être. Bon, après, je me suis un peu lâché pendant le confinement et post-confinement avec des groupes totalement inconnus en France espagnols, mais ça, c'est pas grave. Et ça, en fait, c'est ton côté vache, Michel, de m'avoir donné un.
C'est vrai.
Ouais. Mais bon, je t'aime, Michel, je suis encore là 7 ans après.
C'est vrai.
Allez, lance le titre, Opipola.
Oui.
Allez, Sigur Rós. Thank you.
Avant de se quitter, les concerts de la semaine, le vendredi 12 septembre 2025, à l'intervalle à Vaugneray, dans le Rhône, la deuxième édition Simplextival avec Danilo, Le Voyage de Noz et Sons of Killdozer, au Nicazivez, dans le Rhône, Bill Paley and the Five O'Clock, et au Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes, les musicales du Parc des Oiseaux avec MC Solar. Le samedi 13 septembre 2025, à l'intervalle à Vaugneray, dans le Rhône, le festival Intervalle d'automne avec Roberto Alagna. Au bar au Pharynx, à Pharynx dans l'Ain, Bill Paley and the Five O'Clock. À la Bourse du Travail à Lyon, Jamil Le Schlag et son spectacle Exode. Au parc Jean de la Fontaine à Pierre-Bénite dans le Rhône, le festival Les Francophonides avec Vita, Trigone Plus et Satine. Alain Jindar à Lyon, Gabriel Keller Trio. Au parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes, les musicales du parc avec Alain Souchon et en première partie Lounel. À l'espace Salvaire à Attigna, le Poulard de Brest de notre ami Titi Collet avec Ganafoul, Revenge et Spirit War. Et au marché Gare à Lyon, Two Faces, Oralis et Alpha Cassiopeiae. Le dimanche 14 septembre 2025 à l'Agenda à Lyon, Gabriel Keller Trio. Au Darius Club à Lons-le-Saunier, Joseph Arthur. Et au Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes, les musicales du Parc des Oiseaux avec Alain Souchon et toujours en première partie notre ami Lounel. Le mercredi 17 septembre 2025 au Temps des Noyaux à Bourg-en-Bresse, Michael Minotto. Et pour terminer le jeudi 18 septembre 2025 à tout bout de champ à Lyon, Delacour et Marie Colomera. Et au Château Mairie de Charnay dans le Rhône, le festival des Vendanges Musicales avec Emma Peters et Jeanne B. Il va être l'heure de se quitter. La semaine prochaine, retrouvez la deuxième partie des 20 ans d'Auterminus des Prétentieux. Nous étions le jeudi 27 août 2020, entre deux pandémies, et les locaux étaient en configuration Covid-19. Il y avait même des animateurs dans le couloir. Patrick, Jean-Philippe, Christian, Frédéric, Cyril et Tonio ont fêté à leur manière un anniversaire pas comme les autres. Et côté musique et médias, ils nous ont régalés. Si vous êtes jeudi, retrouvez à 18h30 ou un peu avant la 40e édition de Roman de Gare. Accueille au téléphone l'auteur Isabelle Villain. Elle présente son dernier roman en date, Game Over, paru le 16 janvier 2025 aux éditions Tornada. Sur ce, comme le dit si bien Tonio, rendez-vous jeudi prochain à partir de 17h15 sous les 90.0
de Radio B.
Bonne soirée.